La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et c'est le moment de découvrir la solution d'Elisabeth Assayag.
Et on va permettre aujourd'hui aux femmes de s'accomplir dans leur vie professionnelle, de faire évoluer aussi l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Oui. C'est votre solution Elisabeth et ça s'appelle Gloria.
Gloria, ça existe depuis un an, cette entreprise fondée par deux femmes fait tout pour faire évoluer le regard des femmes sur elles-mêmes et leur permettre de s'accomplir dans leur vie professionnelle. Comment? Grâce à des ateliers, soit au sein d'entreprises, soit directement auprès des femmes en particulier. Alors, ça peut être négocier son salaire, asseoir son autorité, la confiance en soi, tout un programme à travers des ateliers de 2h30. Et il y a du résultat, c'est ce que vous allez nous raconter. Bonjour Florie Benamou.
Bonjour, merci de me recevoir.
Mais merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice de Gloria. Pourquoi Gloria et comment ça vous est venu, cette idée?
Alors, ça nous est venu avec mon associée Laura en partant d'un constat très simple qui est qu'aujourd'hui, il existe beaucoup de structures qui accompagnent les femmes à entreprendre. Il y a des incubateurs spécialisés, des conférences, plein de programmes. En revanche, il y a assez peu de choses qui s'adressent à la femme salariée. Alors, bien entendu, il y a toute la formation qui peut être proposée à l'entreprise et l'entreprise peut la proposer à ses salariés. Mais si en tant que salarié, vous avez envie de faire la démarche vous-même, d'aller vous former sur de la gestion de carrière, donc typiquement négocier son salaire, il y a en fait une offre qui aujourd'hui est très restreinte.
Moi, face à ce constat, vous vous êtes dit, on va monter une structure pour aider les femmes à demander des augmentations de salaire, à revaloriser leur image, à booster leur carrière.
Exactement, c'est ce qu'on s'est dit et on s'est aussi dit qu'on avait envie de participer à la construction d'un monde plus égalitaire et donc c'est notre façon à nous de faire bouger les choses.
Alors c'est quoi votre façon à vous? Par exemple, je souhaite un atelier pour retrouver la confiance en moi, je fais comment? Je vais sur votre site?
Alors oui, tout à fait, vous allez sur notre site. Sur notre site, vous allez trouver un agenda avec l'ensemble des ateliers et des dates qui sont disponibles. Aujourd'hui, malheureusement, ça n'est qu'à Paris, mais un jour, ce sera peut-être en province.
On vous le souhaite.
Par ailleurs, vous pouvez, pour une partie des ateliers, les suivre en ligne. Donc, ça permet aussi à des personnes qui ne sont pas à Paris d'en profiter.
Mais par exemple, là, moi, j'ai regardé un peu ce matin en préparant. Oui. Il y a des ateliers. Donc, c'est un peu comme quand on fait ses courses. Par exemple, il y a un atelier « Demander une augmentation de salaire ». Il y a un atelier de 2h30. Je le mets dans le jeu « clique ». Je le mets dans un panier et après ça devient quoi? Je vais dans un endroit ou alors, ce sont des cours en ligne? C'est quoi cet atelier?
Alors c'est un atelier physique, c'est-à-dire que vous avez le lieu dans lequel va se dérouler l'atelier qui est indiqué. Donc vous achetez votre atelier en ligne comme vous prendriez une place pour un concert par exemple.
En moyenne 39€, j'ai
exactement,
vu.
Entre 29 et 39€. Et puis le jour J, on vous envoie plein de mails pour vous rappeler que le jour J approche, ne vous en faites pas. Le jour J, on vous accueille. Généralement, les ateliers ont lieu dans le 11e à Paris. Et pendant 2h30, vous êtes avec un groupe de 20 à 30 femmes en fonction de la thématique de l'atelier. Et là, pendant 2h30, vous avez un coach qui va vous aider sur la thématique choisie et des moments de partage pour que vous puissiez profiter de l'émulation du groupe.
On est sur de la personnalisation ou on est sur finalement des conseils qui vont pour tout le monde?
Alors, c'est un mix des deux. Évidemment, à 20 ou 30 personnes, on ne peut pas faire la même chose qu'en one-to-one. En revanche, l'intérêt d'être en groupe, c'est justement qu'on peut partager des expériences, on peut s'apercevoir qu'on n'est pas la seule à être dans cette situation-là, échanger avec son voisin, sa voisine. Et on demande en amont aux personnes qui se sont inscrites de répondre à un certain nombre de questions, ce qui va nous permettre d'adapter aussi le contenu de l'atelier.
Et le choix du coach aussi?
Alors non, le choix du coach, pour le coup, on a choisi un coach par thématique qui, pour nous, est l'expert ou l'experte de cette thématique.
Notre coach à nous, Jean Moreau.
Bonjour, bravo déjà pour l'initiative. Est-ce que vous faites aussi de l'éveil auprès des dirigeants, dirigeantes et des décideurs des grands groupes et des PME pour que les mentalités évoluent, que ça ne vienne pas que du salarié, mais que ça vienne aussi de la direction directement?
Et bien, je suis ravie que vous me posiez la question. Oui, absolument, pour nous, c'est évidemment indispensable de mener cette démarche-là en parallèle. Donc on a une autre casquette qui est de l'intervention en entreprise. Okay. Et là, on accompagne les entreprises sur la mixité et l'égalité femmes-hommes et on coach effectivement des managers, des dirigeants, des recruteurs, pour que l'action qu'on fait auprès des particuliers puisse résonner en entreprise.
Mais vous allez loin parce que vous avez aussi vous proposez des ateliers à destination de nos filles. Hein. Il y a un atelier élever des super-héroïnes. C'est quoi cet atelier? Ce sont les mamans qui vont ou ce sont les petites filles déjà qui vont se faire coacher?
Alors, il y a un point médian, c'est élever des super-héros et héroïnes, donc c'est pour les deux sexes. C'est un atelier qui s'adresse non pas aux enfants, mais aux adultes, que ce soit les parents, les tantes, les oncles, les parrains, les marraines. Quelle que soit la personne qui a un enfant dans son entourage et qui est soucieux de proposer une éducation non sexiste, en fait, ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'il y a des biais qui sont présents dès l'enfance, beaucoup à travers l'éducation, qui vont justement plus tard avoir des répercussions sur les comportements, notamment dans le monde professionnel.
Donc dès le départ, vous
exactement, on s'attaque au problème à la racine.
À la racine. Quel est l'atelier qu'on vous demande le plus ?
Alors, sans grande surprise, c'est négocier son salaire. Je crois que beaucoup de gens estiment qu'ils ne sont pas assez payés. Donc c'est celui-ci qui a le plus de succès.
Et comment est-ce que vous arrivez à faire bouger le curseur ? Est-ce que vous avez le retour ? Est-ce qu'on vous rappelle en vous disant j'ai fait l'atelier et oui, ça a marché, j'ai réussi à avoir mon augmentation ?
Alors absolument, c'est d'ailleurs le meilleur moment pour nous, c'est quand on a une participante qui nous envoie un message sur les réseaux sociaux ou un email pour nous dire « ça y est, c'était hier mon entretien, j'ai eu mon augmente ». Donc ça arrive, pas en 100% des cas, mais on en reçoit régulièrement.
Vous prenez une commission sur le
moment de réfléchir ? Non, bien entendu, on ne touche absolument qu'une commission, juste le plaisir d'avoir aidé.
Vous pourriez envisager d'élargir encore le panel de ce que vous faites ou...
Alors oui,
il y a des ateliers auxquels vous avez pensé qui ne sont pas encore mis en place.
Absolument. On apporte des nouvelles thématiques assez régulièrement. Tous les deux mois, on sort un nouvel atelier. Et pour ça, on interroge les personnes qui ont participé aux ateliers précédents. Donc on leur demande systématiquement quelles sont les thématiques qu'ils aimeraient voir apparaître. Et quand on observe qu'une thématique est assez demandée, on essaye de trouver l'expert ou l'experte et de la sortir.
Mais vous allez créer une communauté de fidèles alors là maintenant, si vous relancez vos anciennes participantes.
C'est ce qu'on espère et on essaye de nourrir cette communauté. On leur envoie aussi du contenu, donc il y a une newsletter qui part toutes les semaines. C'est pas juste les ateliers, on essaye de les accompagner par la suite.
Ça s'appelle Gloria. Merci d'être venue nous présenter cette solution. On a toutes bien noté pour les augmentations de salaire. L'atelier, ça marche.
Merci
d'être venue sur Europe
1. Il est midi 57.
Europe 1.
Allez, restez avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez dans La France Bouge. Dans quelques minutes, vous le savez, on va s'attaquer à la question du coronavirus pour voir comment on travaille à distance, comment on fait pour garder le lien avec les personnes âgées, comment on se soigne aussi. C'est La France Bouge. Des acteurs sont avec nous. À tout de suite.
Europe 1, midi 14h. La France Bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans La France Bouge. Ici, vous savez que nous avons à cœur de vous montrer qu'il existe des initiatives porteuses qui font sens, qui nous apportent des solutions, même quand on vit des périodes de crise comme celle que nous traversons aujourd'hui avec le Covid-19. La décision, par exemple, de fermer les EHPAD est intervenue hier, ce qui signifie que, pour protéger les personnes âgées, le plus souvent vulnérables, il est interdit de leur rendre visite. Alors, l'une des options qui s'offre aux familles pour continuer à garder le lien et rompre l'isolement, eh bien, c'est la vidéo. Bonjour Thierry Schmitt.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Familiz. Ça s'écrit F-A-M-I-L-I-Z-Z. Z-Z, exactement. Vous avez mis au point une solution entre les EHPAD et les familles pour garder ce fameux contact qui est important pour les familles, évidemment, qui rendent visite, mais aussi pour les personnes qui se retrouvent seules dans les EHPAD. Racontez-moi comment est née peut-être d'abord l'idée. C'est parti d'une expérience personnelle que vous avez vécue. Mais en Chine.
Alors c'est ça.
Et dans un autre contexte.
Exactement. Alors en fait, j'ai habité en Chine pendant 10 ans. Et la dernière année, en fait, j'avais un fils qui était en crèche. Il y avait beaucoup de problèmes de communication avec les familles. Et donc j'ai créé Kidiz, qui est une plateforme de communication entre les crèches et les familles. Et en arrivant en France, on l'a déployé sur beaucoup de structures des villes. Et en fait, avec les villes, elles nous ont demandé en fait d'avoir un système qui permettait également aux EHPAD de pouvoir avoir un système de communication avec les familles pour faciliter les échanges, parce qu'il y a beaucoup de familles qui sont géographiquement éloignées des résidences. Et c'est à partir de là en fait qu'on l'a lancé dans les villes et ensuite dans des groupes privés, de manière beaucoup plus large.
Oui, donc ça commence avec Kidiz en 2015.
C'est ça.
Et puis vous commencez à réfléchir effectivement à dupliquer finalement le modèle pour que ça puisse, puisse être utile aussi aux familles qui ont besoin de rendre visite virtuellement
aux personnes âgées.
Ouais,
Quand je dis dupliquer, c'est pas voilà, tout à fait ça. La même chose.
Il y a quand même une grosse adaptation. On a quand même beaucoup travaillé. La vraie différence en fait avec les EHPAD, c'est que les familles vont également pouvoir envoyer des cartes postales à leurs proches dans la résidence. Ils vont pouvoir faire des messages vidéo, des appels vidéo à destination de leurs proches quand il y a un éloignement important. Et les résidences, elles, vont pouvoir également envoyer du contenu, tout type d'informations aux familles. Donc ça peut être des documents, il y a un calendrier partagé, des photos, des vidéos, et elles vont pouvoir le partager en individuel, en collectif, ou même à l'ensemble des résidences d'un réseau, notamment en ce moment, pour des messages, des consignes, pour des visites en EHPAD ou autre.
C'est l'équipe de l'EHPAD qui administre. Il y a le cuisinier, par exemple, qui peut communiquer sur les repas.
Ouais. En fait, le principe dans un EHPAD, c'est qu'il y a beaucoup de métiers différents et ils vont pouvoir transmettre cette information. Et donc, ça peut être le cuisinier qui a fait un repas de fête, un gâteau d'anniversaire. Ça peut être l'animatrice qui partage une sortie. Ça peut être le directeur qui envoie un message par rapport au coronavirus, par exemple, aux familles. Ça peut être les soignantes, un médecin coordinateur. Donc, il y a beaucoup de métiers différents dans un EHPAD et tous vont pouvoir transmettre ces informations aux familles qui sont notifiées sur leur téléphone, qui ont l'information en temps réel et qui vont pouvoir les consulter.
On dit souvent que les personnes âgées ont un peu plus de mal avec tout ce qui est numérique. Mmh. Vous dites, il y en a quand même qui s'y mettent et qui se servent des tablettes vidéo. Je crois que vous avez une nonagénaire notamment.
Alors, on a notre doyenne qui a 98 ans et qui a une tablette et qui l'utilise aujourd'hui. Alors, il faut savoir qu'au départ, on avait environ moins de 1% en fait des résidents qui utilisaient la solution et on est à environ 5%. Donc
là, elle l'utilise, elle passe des appels vidéo.
Ouais, c'est ça. En fait, elle reçoit ses cartes postales, elle peut consulter les infos transmises. Donc voilà, on sent que c'est une tendance qui va augmenter et que de plus en plus aujourd'hui de résidents sont à l'aise avec le digital. Ça a été multiplié par 5 en 3 ans et on pense que cette tendance va aller en continuant.
Alors justement, vous êtes présent dans 600 EHPAD en France, 200 je crois à l'étranger. Ouais. Vous avez vu avec la crise du coronavirus une demande augmentée ?
Alors il y a une forte demande. C'est vrai qu'il y a une forte demande et nous c'est vrai qu'on était un peu mal à l'aise par rapport au contexte et c'est pour ça qu'on a décidé en fait de proposer gratuitement à tous les EHPAD qui en font la demande le service Familiz durant cette période-là et de pas en fait profiter de ça de pas monétiser et de l'offrir gratuitement à l'ensemble des résidences qui souhaiteraient l'avoir en ce moment. Donc on s'apprend sur familiz.com. Elle nous envoie un mail et on leur met en place. Ça prend quelques heures et ça permet d'avoir ce lien avec les familles pendant cette période un peu compliquée pour tout le monde.
Oui, c'est vrai que c'est important, Elisabeth, parce que ça concerne pas mal de monde. Hein. Les personnes âgées dans les EHPAD, il y en a beaucoup.
Mais environ 728 000 personnes vivent en EHPAD avec une moyenne d'âge de 85 ans. Là, on l'a dit, il y a un cordon sanitaire autour des EHPAD. Certains se sont organisés. Tiens, je vais vous donner l'exemple à Mulhouse, hein, dans le Haut-Rhin, l'une des premières régions frappées par le coronavirus. Le personnel soignant a anticipé cette restriction afin que les patients ne se sentent pas seuls et abandonnés. Et eux, par exemple, ils ont mis en place une gazette avec des reportages photos pour que les familles puissent voir comment évolue chaque résident.
Jean Moreau, qu'est-ce que vous pensez de Familiz et de ce qui vient d'être mis en place ?
Je trouve que le geste de donner ça gratuitement est très appréciable et tout à votre honneur. Et vous avez travaillé du coup avec des enfants et des personnes âgées. C'est plus simple de faire converger des enfants ou des personnes âgées sur la tablette ou sur l'outil ?
Alors, les enfants ne sont pas sur les tablettes en fait. Okay. C'est vraiment les parents qui ont l'information entre les structures d'accueil et les parents. C'est l'échange entre les adultes. Les enfants ne sont jamais en fait sur les tablettes. Là où ça se rejoint aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a des crèches intergénérationnelles avec des enfants et des personnes âgées. Donc au final, c'est vrai qu'il y a une convergence qui se fait sur les structures en fait.
Et donc votre client, c'est bien l'établissement, hein. C'est lui qui décide de contracter avec vous, il met à dispo le service pour les familles et charge à elle de l'utiliser ou pas.
En fait, entièrement gratuit pour les familles. Ça, c'est une ADN qu'on a et ce que je trouve gardera toujours, on ne veut pas faire payer les familles pour avoir des nouvelles de leurs proches, que ce soit des enfants ou des personnes âgées, des proches dans les résidences.
Et depuis la crise du coronavirus, le début, vous avez vu le nombre de cartes postales exploser ?
Ouais, en fait, c'est vraiment au-delà de l'explosion. explosion, quoi. C'est vraiment, on sent qu'il y a une inquiétude, et que ce soit les cartes postales, les appels vidéo, même les informations des résidences vers les familles, ont totalement explosé. C'est-à-dire qu'on est sur des proportions assez hallucinantes, ce qui est compréhensible parce que le contexte fait que il y a une inquiétude de tous les côtés, en fait, des professionnels comme des familles ou même des résidents. Qui, alors pour le coup, les résidents sont peut-être un peu plus sereins, j'ai l'impression. Peut-être la sagesse due à l'âge. Mais ouais, tout le monde est inquiet, quoi, c'est sûr.
On reste ensemble et on continue à parler du coronavirus et de ce que vous mettez en œuvre justement pour qu'on garde le lien. Il est 13h19.
Europe 1.
Autre difficulté en cette période d'épidémie, sortir de chez soi quand on est malade pour ne pas prendre de risques supplémentaires, eh bien des solutions de téléconsultation existent et elles fonctionnent. À tout de suite.
Nous vivons une véritable crise due au coronavirus. Alors cet après-midi dans La France Bouge, on vous donne des solutions pour vous aider à gérer la quarantaine. Alors si vous êtes déjà dans ce cas, écrivez-nous, dites-nous quelles difficultés vous rencontrez. Dites-le-nous via Twitter avec le hashtag Europe 1 ou alors appelez-nous au 3921, Raphaël.
Et oui, c'est vrai, hein, vous avez raison, il y a des gens aujourd'hui qui sont confinés parce qu'atteints du coronavirus. Là, on leur demande de rester chez eux quand ils ne sont pas évidemment hospitalisés pour ceux qui sont dans des situations plus graves. Mais le confinement vaut aussi pour les personnes à la santé fragile. C'est là que les choses se compliquent parce que ces populations ont aussi un suivi médical à établir, d'où l'intérêt de pouvoir, par exemple, téléconsulter. Bonjour Olivier Thierry.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG de CARE. Je précise que c'est écrit Q-A-R-E. Vous avez rejoint CARE, vous, en 2019. Et alors, votre parcours est intéressant parce que vous venez d'une famille où, allez, presque tout le monde est médecin, mais vous, vous étiez dans le service Internet, dans les nouvelles technologies. Comment est-ce que les deux métiers se sont rejoints ?
Écoutez, en ce qui me concerne, effectivement, j'ai passé 20 ans à travailler dans les nouvelles technologies et les services innovants. C'est vraiment le fil conducteur et c'est ce qui me motive, c'est de voir comment la technologie peut aider à inventer les services de demain et aider à améliorer le quotidien, la vie des gens et des sociétés. Et puis, j'avais par ailleurs dans ma famille... mon grand-père était médecin, mon frère est médecin, etc. Et pour moi, ce qui est important, c'est de travailler dans quelque chose qui fait du sens. Et quand j'ai commencé à connaître davantage la téléconsultation, je me suis dit que c'était absolument ce à quoi je voulais consacrer mon temps et mon travail pour tous les bénéfices que ça apporte pour les professionnels de santé et les patients.
Du coup, vous rejoignez CARE, CARE qui a été créé en 2017, quand un urgentiste notamment s'aperçoit qu'il y a des problématiques quand même d'accès aux soins et qu'il faudrait peut-être arriver à les régler.
Voilà, CARE, c'est une société française qui a été créée en 2017. Effectivement, parmi les cofondateurs, le docteur Alexandre Maisonneuve, qui est un médecin urgentiste, qui est notre directeur médical aujourd'hui, et une vision partagée par les autres cofondateurs qui venaient du monde de l'assistance et de la technologie, que la téléconsultation, la manière de pratiquer la médecine, peut s'enrichir de nouvelles manières, et donc qui ont développé cette solution qui s'adresse aux patients et aux professionnels de santé, qui est en très forte croissance, même avant l'épidémie, puisque notamment on est passé de 30 personnes il y a un an, 30 personnes aux effectifs, à 150 ouais. personnes aujourd'hui.
Et alors, l'année dernière, j'ai regardé les chiffres, 80 000 téléconsultations, c'est ça ?
Tout à fait, 80 000 téléconsultations réalisées au travers de CARE l'an dernier.
Avec quoi ? Une quarantaine de spécialités différentes proposées ?
Voilà, on a des médecins généralistes, mais on a également plein d'autres spécialités, près de 40 spécialités. Les spécialités les plus prisées, en plus des généralistes, sont surtout les pédiatres, les dermatologues, les gynécologues, les psychiatres, etc.
Est-ce que vous avez vu arriver effectivement des demandes de téléconsultation depuis le début de l'épidémie de coronavirus, parce qu'il y a des gens qui sont de santé fragile et qui ne prennent pas le risque finalement de sortir?
Alors, ça peut être des gens de santé fragile, mais c'est tout le monde, c'est-à-dire que la téléconsultation s'adresse à tout le monde. On avait effectivement, avant même le début de l'épidémie, une croissance hebdomadaire, une croissance mensuelle très 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 forte. Et là, on a vu avec le début de l'épidémie, on parle de surcroissance, c'est-à-dire c'est encore plus fort que ce que l'on voyait. Et ce sont ce ne sont pas des gens forcément qui téléconsultent pour des questions liées au virus en tant que tel. Elles savent généralement, maintenant le public sait que ils doivent appeler le 15 s'ils ont des soupçons, etc. C'est un accroissement de téléconsultation parce que les gens qui avaient entendu parler de cette pratique, les gens et les médecins qui avaient entendu parler de cette pratique, qui se disaient je vais peut-être m'y mettre, etc., se disent ça a l'air de faire du sens, je m'y mets. Et effectivement, quand il teste, puisqu'il s'agit d'une vraie consultation, en vidéo sécurisée, avec ordonnance électronique sécurisée, etc., quand il teste, ils se disent, c'est super. Et donc, on est en train d'assister à une accélération du changement des usages.
Jean Moreau, notre coach.
Là, c'est la question que j'allais poser. Où en est la réglementation là-dessus? J'imagine que évidemment, c'est légal. Est-ce que c'est remboursé à 100%, favorisé? Et est-ce que le contexte actuel favorise l'accélération d'un assouplissement du cadre légal et réglementaire?
Alors, la réglementation évolue un petit peu chaque année. Okay. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une téléconsultation, c'est au même tarif qu'une une consultation en cabinet. Voilà, ce sont les mêmes tarifs. Et vous avez, l'assurance maladie a édicté des règles, un cadre, qui fait que lorsque vous faites une téléconsultation, dans certains cas, dans le cadre du parcours de soins et de certaines exceptions, etc., vous êtes remboursé par l'assurance maladie. Et dans d'autres cas, vous n'êtes pas remboursé par l'assurance maladie. Donc, on explique tout ça de manière très claire sur notre service, donc qui est accessible via un PC ou via un téléphone, et qui va vous dire, en fonction de tel ou tel cas, si vous êtes remboursé ou pas remboursé, sachant que dans les cas où vous n'êtes pas remboursé, il s'agit de 25 euros pour une téléconsultation généraliste.
Elisabeth, il y a d'autres solutions pour échanger quand on est... Quand on a un doute, par exemple.
Quand on a un doute, oui. Il y a Concilio que nous avons reçu en décembre dans la France Bouge. C'est une plateforme. Là, c'est si les entreprises ont envie aussi de mettre en place un suivi sans passer forcément, que chacun ne passe pas par son médecin généraliste. Concilio, c'est une plateforme de services de santé qui donc permet aux entreprises de prendre soin de chaque collaborateur. Elle fournit un accompagnement santé avec un accès à une équipe médicale, un service de recommandation de médecins adapté au problème, un service de prise de rendez-vous rapide et un service de téléconsultation médicale avec des généralistes, des spécialistes et évidemment un service de bilan santé complet. Vous avez aussi Ma Question Médicale, c'est une nouvelle plateforme de télémédecine qui vient d'être fondée par un médecin généraliste lyonnais. Elle a été financée à 100% par d'autres médecins. Je sais qu'il y a un second tour de table qui est en cours, toujours auprès seulement de professionnels de santé. Donc, il existe des solutions.
On reste ensemble et on continue à parler notamment télétravail dans un instant. Il est 13h28.
Europe 1.
Et oui, parce que c'est ça aussi l'une des conséquences de cette épidémie de coronavirus. Le télétravail est en plein boom. À tout de suite.
Europe 1. Créateurs d'entreprises, lancez-vous. La France bouge avec BNP Paribas. Et cet après-midi, dans La France bouge, on vous donne des solutions pour mieux vivre la quarantaine en cette période d'épidémie due au coronavirus. Vous y êtes peut-être déjà confronté ou êtes confiné avec des proches. Envoyez-nous vos messages, tiens, pour nous dire comment vous gérez votre quotidien, notamment par rapport à votre travail. Dites-le-nous via Twitter avec le hashtag Europe 1 ou alors appelez-nous au 3921.
Et oui, vous avez raison, parce que cette question du confinement, de la quarantaine se pose à tout le monde, hein, en entreprise aussi. On a donc voulu savoir ce qui était à notre disposition finalement quand on se retrouve dans cette situation. Bonjour Jean de Maupeau.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes un des associés du groupe Flex Job. Votre mission, c'est justement d'accompagner les nouvelles formes d'organisation au travail. Alors, c'est une entreprise qui est assez jeune, hein, créée en 2016. Et ça part d'un constat assez simple, finalement, qu'a fait Jérémy Bataille qui en a eu l'idée. Il faut aujourd'hui, tout simplement, s'adapter.
Exactement. Flex Job, ça naît d'un constat, mais qu'on partage tous, qu'on voit autour de nous. La société vit des mutations profondes, technologiques, sociétales, environnementales. Et donc, les entreprises, en conséquence, vivent ces mêmes mutations. Donc, on est convaincu chez FlexJob, finalement, que le monde de l'entreprise hiérarchique, pyramidale qu'on connaît, arrive peu à peu à bout de souffle et qu'il faut des modèles qui vont évoluer. Et on est convaincu qu'ils vont évoluer vers des modèles plus flexibles, plus responsabilisants. Donc, FlexJob est né de ce constat.
On est bien d'accord qu'on ne peut pas décider du jour au lendemain de mettre tout le monde de but en blanc en télétravail. Ça s'organise, ça se pense. C'est aussi ça votre métier.
Alors tout à fait. Notre métier, c'est d'accompagner les entreprises à réfléchir et à trouver par elles-mêmes leur nouveau mode de travail. Donc, c'est-à-dire qu'on va être un espèce de poil à gratter bienveillant pour accompagner la réflexion et pour formaliser ces nouvelles formes de travail. Est-ce que le télétravail peut s'appliquer du jour au lendemain? Alors, bonne nouvelle quand même pour les entreprises qui se verraient dans l'obligation de télétravailler suite à la conjoncture. C'est possible. Ce sera peut-être pas optimal, mais c'est possible.
C'est-à-dire que c'est possible, mais peut-être pas pour tous les métiers. On prenait hors antenne l'exemple de Europe 1.
Si demain, nous devons tous télétravailler, que se passe-t-il? Il faudra quand même Nicolas Charpentier à la réalisation de l'émission pour pouvoir ouvrir ce qu'on appelle les tranches de radio pour qu'on puisse avoir la parole.
Alors, exactement. Ce qu'il est intéressant de regarder, c'est plutôt quelles vont être les tâches sur lesquelles on va pouvoir télétravailler. Un métier est composé de plusieurs tâches. Il faudrait s'arrêter dessus. Je pense que c'est une piste qui est intéressante. Il y a quelque chose d'autre qui me paraît très intéressant, c'est de regarder à la maille des équipes. Souvent, les entreprises vont dire « on va s'y intéresser pour toute l'entreprise », ce qui est une bonne chose, mais on va regarder pour signer un accord d'entreprise et créer une charte de télétravail. J'invite les entreprises à se questionner à la maille de l'équipe. On ne va pas travailler de la même manière et on ne va pas avoir les mêmes enjeux, les mêmes besoins au sein d'une direction des ressources humaines qu'au sein d'une direction financière ou d'une direction des systèmes d'information.
C'est pour ça que vous organisez des sessions, des ateliers en entreprise avant la mise en place du télétravail.
Exactement. Dans l'idéal, on intervient en amont pour créer les conditions favorables et que les entreprises et les équipes, du coup, trouvent leur propre mode qui va être le plus efficient, qui répond à leurs enjeux.
Jean Moreau, notre coach.
Alors moi, je comprends bien parce qu'on est 100% confrontés et je pense que c'est plus ou moins facile à mettre en place une entreprise de service, une start-up. Après, pour l'entreprise qui produisent des choses, qui ont des usines, je pense à nos copains du Slip français ou 1083 qui sont intervenants ici. Est-ce que vous avez des solutions pour les gens qui ont des usines et qui ont des lignes de production qui ne peuvent pas délocaliser?
Alors, effectivement, c'est pour ça que je parlais des tâches. J'ai vu dans certaines grandes entreprises sur des lignes de production certains métiers où ils sont arrivés à la conclusion qu'ils pouvaient travailler une demi-journée par mois. Donc effectivement, une ligne de production, il faut la faire tourner. C'est pas le métier optimal pour télétravailler. Mais peut-être que sur certaines tâches, sur une période très courte, on peut y avoir accès.
Ouais, ça va venir, hein, parce que Anis Mbida en parlait pas plus tard que ce matin sur Europe 1. Il y a effectivement des expérimentations qui sont menées, notamment grâce à la réalité virtuelle, aux nouveaux outils. Finalement, le gaming permet, depuis son salon, de diriger des machines et de procéder de la manutention, comme on pourrait le faire directement dans l'usine. Mais c'est vrai que ça va venir. Ça se présente, mais tout doucement. Elisabeth, on parlait télétravail, il y en a de plus en plus.
Oui, et il y a une enquête qui est sortie de Malakoff Médéric Humanis. Elle est sortie avant l'épidémie. C'est sorti en mars, mais avant que ça explose, là. Et il en ressort que 30% des salariés ont travaillé à distance en 2019. Donc, on est en légère progression. Hein, ça augmente petit à petit, notamment par rapport à 2018, avec un nombre moyen de jours de télétravail par mois qui est légèrement en recul, hein, 6,4 jours contre 7, et une durée de télétravail inférieure à une journée dans 47% des cas. Mais là, au vu de la situation sanitaire, et on le voit, hein, y a énormément d'entreprises qui font passer tous leurs salariés en télétravail, beaucoup d'entreprises étrangères, il devrait y avoir de la part des entreprises une certaine ouverture en ce moment.
On reste ensemble et on continue à trouver des solutions pour vous aider en cette période d'épidémie de coronavirus.
Il est 13h36.
Europe 1.
Et on vous attend, 3921, Twitter, hashtag Europe 1. Venez témoigner, venez poser aussi vos questions à nos invités. La France bouge avec vous. À tout de suite. Dans la France bouge cet après-midi, on vous donne des solutions pour gérer la quarantaine en cas de confinement dû au coronavirus. On en parle, Raphaël Duchemin, avec vos invités. Oh oui, nos invités, Thierry Schmitt, cofondateur de Familiz, Olivier Thierry, PDG de Care, et Jean de Maupeou, associé de FlexJob. Notre coach aujourd'hui, c'est Jean Moreau, cofondateur de l'appli anti-gaspi Phoenix. À mes côtés, bien sûr, Elisabeth Assayag. Elisabeth, tiens, je voulais qu'on regarde, parce qu'on parle des solutions, il y en a beaucoup, il y a des moyens pour rester connectés, on les a vus tout à l'heure.
Oui, mais notamment avec les grands-parents et les petits-enfants. Alors, hormis Skype, FaceTime, vous avez Papoti. Papoti qui offre aux grands-parents et aux petits-enfants un espace où ils peuvent discuter, échanger des photos, pourquoi pas jouer malgré la distance. C'est une plateforme, hein, qui permet de réunir dans une même application plein de fonctionnalités, de la messagerie, des jeux, des partages de photos, etc. Vous avez l'application Eduki, vous connaissez ?
Non, je connais
pas. Qui propose, en plus de la vidéo en direct, des outils pour interagir, pour améliorer la durée, la qualité de l'appel. Par exemple, vous pouvez afficher un tableau blanc sur lequel vous et l'enfant, vous allez pouvoir dessiner en même temps ou jouer à différents jeux.
Voilà, donc c'est une façon de rester connecté tout en étant séparés.
Est-ce qu'on a des réactions sur Twitter, Céline ?
Oui, hashtag Europe 1, on a Marc qui dit « Vos solutions utilisent tout Internet pour leur connexion aux différents services. Y a-t-il encore des régions où le débit pose problème pour vos outils ?»
Ah, bonne question, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des régions isolées ? Oui, il y en a, hein, qui, les fameuses zones blanches, oui. Il y en a de moins en moins.
Alors, honnêtement, aujourd'hui, pour envoyer un message avec quelques lignes de texte, il n'y a pas besoin d'une connexion incroyable. Donc, on n'a pas aujourd'hui de cas où une résidence aurait zéro connexion Internet. Voilà, en général, c'est quand même placé dans des petites villes qui ont une connexion Internet ou une ligne téléphonique. Donc, il n'y a pas aujourd'hui vraiment de soucis par rapport à la connexion.
Olivier Thierry, vous avez des endroits qui aimeraient bien bénéficier de la téléconsultation et qui ne peuvent pas encore ?
Oui, effectivement, parce que nous, nos téléconsultations se font au travers de vidéos de haute qualité. Donc, on reçoit, alors c'est très rare, mais on reçoit quand même notre service de support, parce qu'on a un service de support 7 jours sur 7 de 7h à 23h, on reçoit parfois des appels de gens qui disent qu'ils n'arrivent pas à avoir une connexion suffisante, auquel cas on les oriente vers de se déplacer ou on essaie de leur fournir des solutions alternatives. Ça reste très marginal.
On peut télétravailler partout, Jean de Beaupéau ?
Alors, c'est mieux avec une bonne connexion Internet,
ouais, c'est mieux.
Quand même. Vraiment, si j'ai envie de télétravailler, ça peut arriver dans le train, la connexion est mauvaise, je peux préparer des emails, travailler sur un document.
Ça s'avère rare.
C'est sûr que c'est pas optimal, c'est sûr.
Je crois que vous allez développer un escape game autour du télétravail. Pourquoi faire exactement ? Quelle est l'idée ?
On développe un escape game. On a déjà développé un jeu en fait qui s'appelle 30 jours pour télétravailler, qui est un serious game, donc un jeu ludique en entreprise pour travailler sur un sujet sérieux. L'objectif est tout simplement de favoriser l'apprentissage par le jeu. Du coup, on s'est associé avec une super entreprise ludopédagogie à Lyon qui s'appelle Félix et Ludo, et ça a pour but de libérer la parole et d'aller plus vite, plus loin sur les sujets liés au télétravail pour définir des bonnes pratiques, des chartes de télétravail par exemple.
Est-ce que vous avez le sentiment tous les trois que aujourd'hui la crise du coronavirus va faire changer les mentalités, va faire avancer plus vite finalement ce que vous aviez senti avant les autres ?
Oui, alors moi je pense que c'est si on peut améliorer pour ma part la communication entre les familles, les EHPAD, et que ça permet voilà de mettre en place des nouveaux outils qui bénéficient à tout le monde, autant tirer voilà le meilleur d'une crise comme celle-ci pour avancer. Je pense que c'est mieux à faire, c'est toujours essayer d'avancer et trouver des solutions, et oui, je pense que les comportements changeront rapidement dans le futur.
Même constat, Olivier Thierry ?
Oui, tout à fait. Nous, on voit que pas mal de gens qui hésitaient se mettent à changer leurs habitudes. Et vous savez, c'est toujours dans les moments difficiles, dans les moments de crise, que les gens trouvent des solutions, osent des choses qu'ils n'osaient pas auparavant. Donc, malheureusement, la situation est difficile pour tout le monde, mais il en sortira des choses nouvelles.
Oui, vous en êtes convaincu aussi, Jean ?
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on en est tellement convaincu. Il y a la French Tech qui a lancé sur les réseaux sociaux un appel à la solidarité hier ou avant-hier. On a décidé de jouer le jeu d'ailleurs chez Flexjob. Et du coup, on a ouvert des temps d'échange qui sont totalement gratuits pour les personnes, les entreprises, les chefs d'entreprise, les managers qui peut-être se sentent désemparés vis-à-vis du télétravail. Et donc, à l'issue de ces temps d'échange, s'ils ressentent le besoin d'aller plus loin, on a des modules de formation 100% en ligne à distance, du coup accessibles n'importe où, sur lesquels ils pourront s'inscrire.
Oui, Jean, je vous vois acquiescer.
Non, mais je partage tout ça. Je trouve ça encore une fois très bien, cette solidarité entre l'écosystème. Nous, on a reçu un mail de nos investisseurs qui disait c'est un phénomène un peu darwinien. Donc, les entreprises qui gagneront ne sont pas les plus grosses, ce sont celles qui s'adapteront le plus vite. Donc voilà, je pense que tous ces petits gestes qu'on fait, téléconsultation, passer en visioconférence ou en télétravail, ce sont des gestes d'adaptation rapide. Et celles qui franchiront le pas le plus vite seront le mieux tirées d'affaire par rapport aux gros mastodontes qui auront plus de mal à bouger leur ligne.
En tout cas, on vous a donné quelques clés, on va continuer à le faire. Merci messieurs d'être venus aujourd'hui les partager sur Europe 1. Il est 13h46.
Europe 1.
On reste ensemble, on se retrouve dans quelques minutes avec une entreprise qui va bien. Vous connaissez forcément ses produits, peut-être pas son histoire ni son nom, c'est Alterfood.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
J'ai du mal sur Vaïmalama Chavez. Non ? C'est vrai. Redites-le encore, non?
Bref, c'est l'heure de découvrir l'entreprise qui va bien.
Et cette entreprise, c'est beaucoup plus simple à dire. Alterfood.
Oui, c'est vrai.
Bonjour Alexis Vaillant.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de ce groupe qui a en fait démarré en 2009. Alors, ça commence, je crois, dans un petit bureau prêté par un ami. Mais l'idée, l'ambition en tout cas est déjà là, c'est-à-dire de mettre en avant les produits du terroir parce que forcément, ce terroir, vous en avez un, c'est la Haute-Savoie.
Oui, tout à fait. Alors ça commence avec un rêve, c'était de dire qu'on voulait tout simplement développer des bons produits. Des bons produits, ça voulait dire des produits traçables, des produits transparents, des produits bio. Alors c'est vrai qu'en 2020, c'est très facile de le dire, mais je vous avoue que quand j'ai commencé en 2009 et que j'allais voir les acheteurs de la grande distribution, on me prenait un peu pour un uberlu. Aujourd'hui, c'est la tendance et on en est ravis. Dans la mesure où c'est ce qui est bon pour l'homme et c'est ce qu'on souhaitait faire depuis le début.
Alors, vous commencez par créer des infusions. Pourquoi les infusions ?
Parce que mon rêve, c'était de créer un thé glacé à la française. Et je me suis rendu compte, avec beaucoup, beaucoup de réflexion, que le thé, c'était pas français, mais qu'on avait dans nos territoires de la culture de tisane assez extraordinaire. Et j'ai eu la chance de rencontrer une femme, puisque c'est une rencontre qui a créé Infusion, qui s'appelle Marie Denzel. Oui. Qui est l'exploitante d'un domaine qui s'appelle le domaine de Mazet, qui cultive des plantes médicinales. Et de ces plantes médicinales, j'ai décidé d'en créer une boisson plutôt moderne pour rendre la tisane fraîche, accessible à tous, et contrer un peu toutes les mauvaises pensées qu'on pouvait penser à l'époque sur la tisane.
Ouais, donner un coup de jeune à la tisane.
Exactement.
Aussi. Puis alors vous passez au jus de fruits, au soupe bio, à chaque fois il y a un nom différent, une marque différente qui apparaît. En 2014 arrive Baïa, une boisson aux fruits des tropiques. En 2016, Hugo le maraîcher. Aujourd'hui, 20 marques au total.
Alors, 20 marques, on en a créé 9 ou 10. Sur les 20, on en distribue également, puisque au tout départ, quand on a commencé, on n'avait pas les moyens de créer nos propres marques. Donc, on importait des produits, notamment d'Angleterre ou d'Allemagne, qui étaient mieux disant que les produits qu'il y avait sur notre territoire. En 10 ans, la France a fait un bond considérable et s'est énormément amélioré, a même dépassé les autres sur la qualité des produits et la qualité intrinsèque des produits, ce qui nous a permis à nous de développer nos propres produits. La passion d'Alterfood, c'est la passion des marques. On adore créer des marques, il faut qu'on se calme un petit peu, c'est vrai. mais on adore créer des marques, c'est la passion des marques, c'est la passion des rencontres. Vous parlez de Marcel Bio, on a rencontré Marcel, qui est Marcel Ball, mon ami associé et agriculteur, quand on a créé Infusion, puisqu'on cherchait des fruits pour Infusion. Et c'est de cette recherche de fruits qu'est né Marcel Bio et qui est aujourd'hui principalement une marque de soupe du terroir.
À chaque fois que vous faites une rencontre ou qu'on vous challenge, vous créez quelque chose. J'ai souvenir que vous êtes venu effectivement sur ce plateau dans un dossier de la France Bouge et qu'on vous avait un peu challengé sur les bars, non ?
Oui, vous nous aviez challengé sur le snacking. C'est vrai que en France, on évolue très vite aujourd'hui sur les codes de consommation. On évolue très vite sur le bio, sur les bons produits. Là, j'ai la chance que la boisson était un marché qui était particulièrement en avance. Aujourd'hui, on décide de se lancer sur les snacks pour pouvoir proposer des alternatives de consommation responsable aux consommateurs également.
C'est le dernier né, Blast Snack.
Blast Snack. Alors,
facile à dire non plus pour Céline.
On demande toujours pourquoi des noms un peu américains. Mais c'est vrai qu'en entreprise française, on a toujours le rêve de s'exporter. Blatt, c'est un peu un tremblement de terre sur le marché des snacks, c'est un peu un coup de tonnerre et c'est un produit assez exceptionnel dans sa conception, puisque bio, sans huile de palme.
Et moins de sucre, des produits toujours plus sains, c'est ça un peu votre ADN.
Notre leitmotiv, c'est de toujours faire des produits plus sains, plus transparents, plus traçables, tout en toujours mettant le goût au centre de notre projet. Car indéniablement, ce sont des produits de consommation, donc ce sont des produits de plaisir.
Que dit notre coach, que vous connaissez bien d'ailleurs?
Moi, ce que je dis, c'est que je rends hommage à Alexis, qui est vraiment un pionnier à la fois sur la nourriture de qualité, la consommation responsable, depuis 2009, et sur l'anti-gaspillage aussi, parce que ça a été un des premiers à nous faire confiance avec Phoenix en 2014 pour que ces marques soient zéro déchet, zéro gaspillage, donc bravo à lui. Je voulais juste connaître deux choses. Un, quel est le produit star qui rencontre le plus de succès sur votre marché? Et deuxièmement, comment réagissent les gros du secteur? C'est un marché concurrentiel. Est-ce qu'il y a garde des prix, volonté de vous racheter, dans la boisson notamment?
Alors, on a deux produits stars, Marcel Bio particulièrement, notamment sur les soupes, parce qu'on a craqué vraiment quelque chose sur la soupe, en proposant une alternative en verre, en proposant un petit format pour les urbains, en proposant des soupes qui ont plus de 70% de fruits et légumes, donc ce sont des produits totalement locaux, et c'est vrai que c'est notre produit star. Et Hugo le maraîcher, parce que Hugo, ça part d'une volonté de proposer aux Français un vrai bon jus de fruits et légumes, donc de rendre accessibles les fruits et légumes, et accessibles en termes de prix également, et c'est vrai que c'est un produit qui parle aux Français. Donc ce sont nos deux produits stars.
Avec à chaque fois une rémunération juste, ça c'est un point clé, un point important dans toutes vos collaborations.
Dans toutes nos collaborations, pour Marcel Bio, on a un domaine qui est la ferme du Cantou, qui travaille essentiellement pour Marcel Bio, et on rémunère intégralement tout le domaine sur la culture des légumes, et on s'engage chaque année notamment à financer les graines, à financer les démarrages, à accompagner quand les saisons sont mauvaises. On est même jusqu'à aller investir dans l'unité de fabrication. Donc aujourd'hui, on est en partie propriétaire de l'outil de fabrication de Marcel Bio, en association toujours avec les agriculteurs, avec cette volonté de valorisation du produit et du prix. Et pour répondre à ta deuxième question, puisqu'elle est importante, notamment sur la partie prix, chez Alterfood, on a un parti pris, c'est de dire on valorise les produits à leur juste valeur. Donc on n'entre pas dans la guerre des prix. Indéniablement, on vend en grande consommation, en grande distribution. On souhaite que nos produits soient accessibles, mais on ne rentre pas dans la guerre des prix, puisqu'on valorise avant tout les matières et la qualité de nos produits.
Et c'est pour ça qu'Alterfood est en pleine croissance, 8 millions de chiffre d'affaires. C'est l'entreprise qui va bien. Merci Alexis Vaillant d'être venu nous en parler. Merci à Jean Moreau, cofondateur de l'appli anti-gaspi Phoenix, d'avoir été avec nous.
Merci Raphaël.
On se dit, Elisabeth et Céline, à demain midi sur Europe 1.
À demain Raphaël Duchemin. C'était La France Bouge avec BNP Paribas. Vous voulez créer votre entreprise, BNP Paribas est à vos côtés pour lancer le projet auquel vous croyez. Rendez-vous sur lancezvous.bnp Paribas. Et dans un instant, on de la traconte sur Europe 1.